Chapitre 27. Énigme. Je ne demande pas la lune. J'accepte ma condition sur Terre, même si l'équilibre est encore instable. Anaëlle repense à cette discussion avec le professeur. Cela fait à peine 2 mois qu'elle a prononcé ces mots, et elle sent pourtant comme des envies de lune, du moins de sa lumière. L'équilibre aussi commence à s'installer. Elle suppose qu'il y a désormais une petite musique nouvelle et dynamique qui la tire vers l'avant et vers la boîte aux lettres. Elle qui ne veut pas être enfermée dans des statistiques en élabore elle-même. Avec un peu de chance, il aura répondu le jeudi soir, aura posté la lettre en quittant son bureau. Elle sera partie vendredi matin de Strasbourg et si tout le monde fait bien son travail, sera dans sa boîte aujourd'hui. Elle a calculé tout cela en comptant discrètement sur ses doigts pendant que le banquier tapotait sur la calculatrice pour en sortir la mensualité finale. Une chance qu'il soit gentil et compréhensif pour donner un coup de pouce à son dossier. Après tout, ce n'est qu'un handicap, certes, important, mais dont elle se remet doucement. Elle a un travail, une rente, un bon apport personnel lié à l'indemnité qu'elle a reçue suite à l'accident, la caution de ses parents. Le montant du prêt n'était pas très élevé pour finaliser son projet, et elle n'a pas eu trop de peine à l'obtenir. C'est son premier achat, son premier chez soi. Anaëlle sort de l'agence, le cœur léger, avec l'envie de sauter de joie. Elle renonce au saut, mais garde la joie et se contente de sourire. Exercice supplémentaire pour sa mâchoire. Elle sera bien là-haut, dans un village calme, entouré de montagnes apaisantes, dans un cocon qu'elle va bientôt pouvoir aménager, même si le devis du menuisier tarde à arriver. Peut-être l'a-t-il enfin envoyé ? Penser à cette petite maison l'aurait presque détournée de l'envie de recevoir un courrier du procureur. Quand elle ouvre la boîte, point de lettre de l'artisan, mais un colis. Anaëlle sourit, même si le doute persiste. Elle ne veut pas lâcher trop vite les rênes de sa confiance. Et si le procureur n'était pas aussi gentil qu'il n'y paraît ? Strasbourg, 22 avril. Ma chère Anaëlle, vous êtes vivante. Maintenant que vous êtes revenue, je peux vous l'avouer. J'ai eu peur pour vous. J'ai tout imaginé. Un accident, un enlèvement, un assassinat. Non, je ne regarde pas trop la télé. Je baigne dans la délinquance au quotidien. Mais vous êtes là. Plus en forme que jamais, du moins dans vos écrits. Ce n'est plus une fleur, mais toute une plate-bande que vous m'avez offerte. Ma greffière doit beaucoup vous en vouloir, car j'ai été d'un caractère exécrable durant ces 3 semaines sans nouvelles de vous. Ne lui refaites jamais ça. En quelques lettres, comme vous dites, je me suis suffisamment attachée à vous pour m'inquiéter de votre sort. J'ai regretté de ne pas avoir de numéro de téléphone où vous joindre. Je vous ai mis dans la présente enveloppe ma carte de visite, avec tous les numéros nécessaires, ainsi que mon portable personnel. N'hésitez pas à m'appeler si besoin. Je ne connais rien de vous, même pas votre voix. Savez-vous ce que je commence à ressentir ? L'appréhension qu'il vous arrive vraiment un malheur et que personne ne pense à me prévenir. Je resterai sans nouvelles, ignorant si c'est de votre fait ou de celui d'un drame, sans savoir si c'est mon orgueil qui doit en prendre un coup ou le destin qui me fait une crasse. Vous qui analysez bien les situations, qu'en est-il de cette réaction ? Normale ? Excessive ? Incurable ? Vous ne me facilitez pas la tâche, car vous êtes toujours aussi énigmatique. Je n'ai aucune idée de la raison de votre silence pendant 3 semaines. Je peux tout imaginer. Racontez-moi si vous le souhaitez. Sinon, je me morfondrai dans mon coin de ne rien savoir de votre vie. Il faut prendre les fleurs comme elles poussent. Voyez-vous, je crois bien que c'est cela qui me fait du bien quand je vous écris. Je peux vous dire des choses que je ne dirais nulle part ailleurs, et à personne d'autre, cela sans jugement. Je passe ma vie à endosser des rôles et des costumes. Affaires sérieux et droit, procureur compétent, mari parfait, alors que je rêve de futilité et de couleur. J'ai plutôt le sentiment d'être un vieux loup solitaire, abîmé, qui lèche ses blessures seul dans son coin. Je me sens un peu moins seule depuis que vos courriers arrivent sur mon bureau. Peut-être est-ce simplement cela que vous me permettez. C'est un tel luxe. Votre travail semble passionnant. Je ne connais pas bien la psychosociologie des femmes, même si cela s'avère utile dans mon métier aussi, entre autres avec ma greffière. Je ne manquerai pas de vous poser les questions adéquates si besoin. J'en ai une d'emblée. Qu'entendez-vous par « acrimonieuse bourgeoise mal baisée » ? J'ai un sévère besoin d'écarter cette étiquette de mon épouse. Comprenez-moi, l'homme est un animal fier et orgueilleux. Je suis étonnée qu'aucun gynécologue du cabinet n'ait jamais tenté une quelconque approche à votre égard. Je n'ai pas encore votre visage définitif, mais dans ce que vous écrivez, on sent une personne attachante. Je me demande quel est votre secret pour garder ce périmètre de sécurité. Mine de rien, je m'approche doucement du moment où je pourrai poser l'auréole sur la tête d'une des 17 jeunes femmes restantes. Chaque jour, je parcours cette photo en essayant de sentir qui vous êtes, en fonction de ce que vous m'écrivez. Mais j'aurais trop peur de me tromper. Alors j'attends vos indices comme les enfants le Père Noël. J'espère que vous aimez le chocolat. Mais n'abusez pas des bonnes choses. S'il vous plaît, appelez-moi Hervé. Hervé, votre lapin de Pâques. PS 1. Je vous promets de ne plus vous enfermer dans de quelconques statistiques. PS 2. Votre histoire de mâchoire était donc bien réelle ? Je m'excuse si je vous ai encore froissé. Cela dit, si vous étiez moins énigmatique. PS 3. Je crois que nos lettres s'allongent.